Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
De nos invite les chrétiens engagés dans le domaine de la charité à ne pas collaborer avec des projets contraires à l'anthropologie chrétienne. Dans un long discours ce samedi matin, le pape a exprimé une fois encore son refus des unions entre personnes de même sexe et mis en garde contre l'idéologie du genre. C'est la une de ce magazine. Vous entendrez l'inquiétude d'un évêque africain dans cette émission. Après l'intervention française au Mali et la prise d'otages en Algérie, il se dit déçu et méfiant à l'égard de l'Occident. Nous verrons que le Vatican salue les mesures prises par Barack Obama pour réglementer la circulation des armes aux États-Unis. Mais si l'on veut que la paix règne, il faut faire davantage au niveau mondial. Dans ce magazine, ne manquez pas nos rendez-vous hebdomadaires avec les Amis de Dieu et le commentaire de l'Évangile. L'exercice de la charité dans le contexte actuel exige le discernement. Les chrétiens doivent se laisser guider par la foi. Benoît XVI en est convaincu, il l'a redit ce samedi matin en recevant les participants à l'assemblée plénière du Conseil pontifical Coronum. Il y a quelques semaines, le pape avait publié un motu proprio, un texte du magistère, pour réaffirmer face aux défis anthropologiques actuels la dimension ecclésiale des œuvres de charité dans l'Église. Thomas Chabol.
C'est un nouvel avertissement que Benoît XVI a voulu adresser à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la charité de l'Église pour les exhorter à se laisser guider par les principes de la foi chrétienne qui donnent une dimension prophétique à la charité. La collaboration légitime avec les instances internationales ne les autorise pas à fermer les yeux sur les graves idéologies et dérives de notre temps déguisées en progrès et pseudo-humanisme. Le pape a brossé un sombre tableau de la situation actuelle où le prométhéisme technologique se greffant sur le matérialisme hédoniste provoque l'émergence d'une anthropologie athée qui prétend faire abstraction de Dieu et de toute dimension spirituelle. Lorsque l'homme est privé de son âme et de sa relation personnelle avec Dieu, tout ce qui est techniquement possible devient moralement licite. Citant les manipulations, la politique démographique, la théorie du genre, Benoît XVI a mis en garde les humanitaires chrétiens contre la mentalité ambiante. Nous sommes face à l'absolutisation de l'homme qui prétend trouver son bonheur dans l'affirmation de soi et finit par connaître une solitude dramatique, a-t-il martelé. Les chrétiens devront exercer une vigilance critique dans leur collaboration avec d'autres acteurs sociaux et refuser, si nécessaire, des financements et des partenariats qui favoriseraient des projets en désaccord avec l'anthropologie chrétienne. Pour les chrétiens, foi et charité sont intimement liées, tout comme l'amour et la vérité.
Au Mali, l'archevêque de Bamako demande l'ouverture immédiate de couloirs humanitaires pour permettre d'envoyer des aides aux populations privées de nourriture et de médicaments. Monseigneur Jean Zerbo, qui est aussi président de Caritas Mali, a fait parvenir son appel à l'agence Vatican Fides. Il souligne qu'une nouvelle période de souffrance a commencé pour la population du Mali. Il faut venir en aide aux nombreux croissants d'évacués et de réfugiés qui ont besoin de tout, alors que la situation s'aggrave. Caritas Internationalis estime approximativement à 400 000 le nombre des personnes ayant fui le nord du Mali et les zones de combat pour se réfugier dans le sud ou dans des pays limitrophes. Des aides internationales sont nécessaires de manière urgente. La menace islamiste suscite par ailleurs une vive inquiétude au sein de l'église locale, surtout depuis l'attaque du site Ghazi en Algérie qui traduit, selon les experts, la rivalité entre chefs islamistes de la région et fait craindre une multiplication des risques des dérives. L'archevêque d'Accra, au Ghana, souligne ainsi que beaucoup de musulmans africains sont allés étudier en Arabie Saoudite, en Égypte, au Koweït, en Libye et en Iran. Monseigneur Charles Palmer Buckle critique l'intervention militaire de la France. Thomas Chabol l'a interrogé.
Il y a l'escalation maintenant de fondamentalisme, pas seulement au niveau de l'islam, mais même aussi au sein du christianisme. Et le fondamentalisme, normalement, veut dire un peu de peur de quelque chose, d'une situation qui n'a pas été encore bien résolue. Sans doute, quand on voit ce qui se passe dans les pays Maghreb et même au-delà, les pays du Sahel et tout ça, nous avons à nous préoccuper beaucoup, pas seulement pour le christianisme, mais particulièrement pour les citoyens qui sont là. passe est que quand on regarde ce qui se passe maintenant, par exemple au Mali, c'est pas du tout contre le christianisme. Ce sont des hommes et femmes islamiques qui sont en train de se tuer au nom de la même religion. Et c'est là que nous préoccupe.
Évidemment, cela implique aussi le fait que Al-Qaïda devient de plus en plus importante dans cette partie du continent.
Moi, je ne dirais pas que c'est Al-Qaïda qui devient quelque chose là-bas. Nous avons affaire avec une situation de pauvreté qui mène les hommes toujours à prendre des décisions parfois irrationnelles.
Comment est-ce que vous considérez le fait que les puissances occidentales interviennent en Afrique? Je fais référence notamment, évidemment, à l'intervention française au Mali en ce moment.
Toujours je me demande, après leurs interventions, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours on commence par utiliser la force armée, on détruit beaucoup et puis on laisse le pays dans une situation encore pire comme avant. Nous avons vécu, et j'ai eu occasion à parler avec un évêque de l'Irak qui me disait, après l'intervention américaine et tout ça, le pays, la situation pour les chrétiens dans le pays est encore pire. Et on a eu à voir aussi, par exemple, ce qui se passe maintenant au nord de l'Afrique, quoi. Oui, après des interventions militaires, des forces militaires et armées et tout ce truc-là, l'Europe toujours se retire. Alors je serai de l'opinion du pape qu'on n'utilise jamais la force. On doit tout faire à dialoguer avec ceux qui se trouvent là pour trouver une solution qui plaît à tout le monde, quoi. Parce que quand on utilise toujours la force armée, à la fin, il y a des vainqueurs et puis il y a des victimes. Mais quand on laisse un pays avec des vainqueurs et des victimes, vous savez ce qui se passe. Voyons ce qui se passe à côté de nous ici en Côte d'Ivoire. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les interventions, soit des forces armées et pire encore, des forces armées européennes. Ça ne nous porte pas à une solution encore acceptable.
C'était l'archevêque d'Accra, au Ghana. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège salue le plan contre les armes à feu lancé cette semaine par le président des États-Unis, Barack Obama. Dans son éditorial hebdomadaire, le père Federico Lombardi affirme qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction, mais il y a encore du chemin à parcourir. Il faut, dit-il, demander sans relâche que cesse la production, le commerce et le trafic des armes en tout genre, alimentés par des intérêts indignes. Il faut encourager les adhésions aux conventions internationales contre les mines antipersonnelles et autres armes meurtrières et pour la réduction du nombre excessif des ogives nucléaires. Les armes sont et seront toujours trop nombreuses. Citant les paroles prononcées par Benoît XVI à bord de l'avion qui le conduisait au Liban, le père Lombardi note que nous sommes tous bouleversés par les massacres en Syrie, mais que les armes continuent à arriver dans ce pays. La paix naît dans les cœurs, certes, mais il est plus facile de l'obtenir sans armes à la main. Alors que la société américaine est engagée dans le débat sur la circulation des armes, il est important de rappeler que dans le reste du monde, les armes sont peut-être des outils de légitime défense, mais qu'elles sont toujours et partout l'instrument dont on se sert pour brandir des menaces et porter la violence et la mort. Benoît XVI a adressé une lettre de félicitations au nouveau patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques, sa béatitude Ibrahim Isaac Sidrak. Le pape souligne l'importance de son élection et accueille cette demande de communion ecclésiastique. Il est convaincu que le nouveau patriarche aura l'ardeur nécessaire pour guider l'église copte. Monseigneur Sidrak succède au cardinal Naguib, démissionnaire pour motif de santé, alors que la situation demeure difficile pour les chrétiens en Égypte. Vendredi à Kenna, dans le sud du pays, des affrontements ont opposé la police égyptienne à une foule de musulmans en colère qui ont tenté de prendre d'assaut une église copte après avoir affirmé qu'un commerçant copte avait harcelé une fillette musulmane de 6 ans. Deux commerces appartenant à des coptes ont été détruits. L'église a été épargnée grâce à l'intervention de la police. Les attaques contre les coptes se sont accrues depuis la chute du président Hosni Moubarak en février 2011, aggravant leur sentiment d'insécurité malgré les assurances des autorités. De nombreux coptes craignent pour leur avenir. Benoît XVI a élevé au rang d'éparchie l'exarchat apostolique pour les Ukrainiens de rite byzantin résidant en France. Monseigneur Boris Gutsiak, jusqu'ici exarque en France, est nommé premier évêque de l'éparchie Saint-Vladimir-le-Grand de Paris, du nom du prince de Kiev, qui a accueilli le christianisme en 988, et de la cathédrale ukrainienne de rite byzantin à Paris. Vendredi, le pape avait déjà élevé au rang d'éparchie l'exarchat apostolique pour les Ukrainiens de rite byzantin résidant en Grande-Bretagne. Si je dis Credo, c'est le livre pour Dieu que nous vous proposons cette semaine. L'auteur Maurice Bellet, jésuite et psychanalyste âgé de 89 ans, propose trois principes pour entendre ce que nous disons quand nous récitons le Credo. Le principe évangile, le principe de signification et le principe de relation. Livre pour Dieu, c'est une rubrique hebdomadaire réalisée par Catherine Aubin.
Maurice Bellet, le titre de votre dernier livre, « Si je dis credo ». Dans ce livre, vous écrivez « Le credo paraît opérer séparation. Il n'est même pas question d'amour dans le credo, ni de la vie, ni de l'enseignement de Jésus. » Vous pouvez nous expliquer ?
C'est vrai que c'est paradoxal, que cette absence dans le credo peut interroger, d'autant plus que pour pas mal de chrétiens, eh bien, le cœur de l'Évangile, ça serait justement une éthique de la fraternité, de la bienveillance, de l'amour du prochain, etc. Or, il n'y a pas un mot là-dessus, donc je crois en Dieu. Alors, ça m'a posé question et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut assumer ça? Alors, c'est là qu'intervient pour moi ce que j'ai appelé le principe Évangile, c'est-à-dire que le « je crois en Dieu » ne peut être qu'une manière de répondre à l'Évangile et une manière d'y adhérer. Mais adhérer à quoi? Alors, je crois que l'absence de morale dans le credo pourrait signifier ceci, c'est que le credo nous déploie les dons de Dieu. Ce que le credo dit à travers le Dieu Père, à travers le Christ qui vient parmi nous, à travers la résurrection, à travers l'Église, ce que le Dieu dit, c'est en quelque sorte le déploiement de l'amour de Dieu pour nous. Or ça, c'est très important. Ce qui est premier, c'est l'amour dont Dieu nous aime. Ce qui est premier, c'est la grâce. Et je pense qu'il y a une façon d'entendre le credo qui libère quand même de pas mal d'obscurité, c'est d'entendre le credo comme la description de la générosité divine envers nous.
C'est ce que vous dites, il me semble, à la page 42, quand vous dites « entendre le credo dans sa signification possible aujourd'hui à hauteur de ce qu'il prétend dire ».
Voilà. Alors ça, c'est mon premier principe, si je puis dire, de lecture, c'est le principe évangile. Et le deuxième, c'est le principe de signification, c'est-à-dire, je dois, autant qu'il m'est donné, autant que je puis, entendre les paroles du « je crois en Dieu » comme prenant sens, prenant vie, prenant force dans mon existence. Et dans mon existence, pas par exemple simplement sous l'angle dit religieux, comme si ailleurs il y avait la vie réelle, si j'ose ainsi m'exprimer. Non, vraiment pour les questions fondamentales de l'existence, quand je dis par exemple que Dieu est tout-puissant, la toute-puissance divine doit me délivrer des fausses toute-puissances qui viennent de l'idéologie, qui viennent du système économique dans lequel nous sommes. La toute-puissance de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, me délivre de la puissance des idoles. Et si par idole, j'entends pas simplement des reliefs du passé, mais ce qui fonctionne aujourd'hui à travers l'argent, le sexe, le pouvoir, etc., ah, ben ça prend un sens très vigoureux dans l'existence. Ça, c'est ce principe, je crois, qu'on doit appliquer autant qu'on peut, en sachant que la signification qu'on pourra trouver au « je crois en Dieu » ne sera jamais à la hauteur, à la pleine hauteur de ce que dit l'Évangile. Enfin, ça introduit le troisième principe que je dis, principe de relation, c'est-à-dire je dois avoir envers la parole de Dieu qui se manifeste dans une parole humaine, qui est celle de Jésus et dans la parole des apôtres, le même genre de respect et d'attention que j'ai envers la parole d'autrui. Parce que quand autrui me parle, je n'ai pas la prétention de comprendre d'avance et de juger ce qu'il dit simplement par mes propres pensées. Même un bon thérapeute est quelqu'un qui est prêt à entendre ce qu'il ne comprend pas. Et donc, je dois avoir ce respect envers la parole de Dieu, dont le credo se fait l'écho, d'attendre et d'espérer qu'elle prenne vie pour moi. Alors, avec ces trois attitudes-là, l'évangile au principe, la signification réelle dans mon existence et le respect d'une parole qui reste autre, je crois qu'il y a moyen de d'aborder le credo non pas en faisant disparaître toutes les questions, mais en n'étant pas d'emblée dans un certain malaise.
Maurice Bellet, prêtre, psychanalyste, théologien et philosophe, son œuvre considérable est traduite dans le monde entier. Si le credo interroge, il est aussi une réponse. La semaine prochaine, vous pourrez entendre à ce propos la deuxième partie de cet entretien. Et nous retrouvons à présent le père Pascal Montavis pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 20 janvier, le deuxième du temps ordinaire. Et c'est l'évangile selon saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Il s'agit du récit du miracle des noces de Cana. Jésus change l'eau en vin et manifeste sa gloire. Faites tout ce qu'il vous dira.
Pour bien comprendre la signification de ce signe donné par Jésus, regardons de plus près l'attitude de Marie, des serviteurs et des disciples. Tout d'abord, c'est Marie qui remarque que le vin manque. Elle intercède auprès de son fils et sa prière est exaucée. Marie est donc cette mère qui connaît le besoin de ses enfants avant même que ceux-ci aient eu le temps de l'exprimer. Marie manifeste ainsi sa participation au mystère de la rédemption. Le vin des noces qu'elle demande préfigure le sang de Jésus en croix, ce sang qui nous donne la vie éternelle. Marie est donc bien présente à chaque Eucharistie lorsque le prêtre consacre le pain et le vin. Mais Marie ne s'adresse pas seulement à son fils, elle s'adresse à chacun de nous. Elle nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle nous a montré l'exemple en accueillant la parole de l'ange Gabriel et elle nous invite, à notre tour, à mettre en pratique les paroles de Jésus. Marie est donc celle qui intercède auprès de son fils, mais aussi celle qui nous encourage à le suivre, à écouter sa parole. Dans ce miracle des noces de Cana, on oublie parfois le rôle essentiel des serviteurs. Alors que le vin manque, ils auraient pu s'activer pour en chercher chez le voisin ou chez le marchand le plus proche. Mais ils préfèrent obéir à Jésus en posant un acte qui reste difficile à comprendre. Pourquoi remplir d'eau 6 jarres de 100 litres chacune alors que le vin manque ? Plus encore, ils puisent dans ces mêmes jarres et emportent au maître du repas. Alors qu'ils pensent porter de l'eau et craignent certainement une réprimande, le maître du repas s'adresse au marié car il s'étonne que le vin le meilleur soit gardé pour la fin. Cette attitude des serviteurs qui ont suivi le conseil de Marie est celle des véritables disciples de Jésus. Combien de fois celui qui décide de suivre Jésus peut s'exclamer « À quoi bon? Ce que je fais n'a pas de sens, cela ne sert à rien !» Le découragement parfois accable le baptisé qui ne parvient plus à poser des actes de foi. Cet évangile nous enseigne qu'en suivant le Christ et avec l'aide de Marie, c'est du vin que nous apportons aux autres, ce vin qui est celui du royaume et qui nous ouvre les portes du ciel. Enfin, ce passage se termine par la conclusion suivante. Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il y a là un enseignement qui équilibre celui de la foi aveugle des serviteurs qui remplissent les cuves. C'est parce que Jésus manifeste sa gloire que les disciples croient en lui. Nous avons besoin de ces signes que Dieu nous donne. Nous avons besoin de contempler sa gloire pour croire en lui. Il est capital d'évacuer l'idée d'une foi qui n'aurait pas besoin de signes divins. Notre foi en Jésus ne repose pas sur un concept, sur une belle idée séduisante, mais sur une expérience de l'agir de Dieu dans ma vie. Comme chrétien, il y a des moments où Dieu se fait sentir, où nous pouvons presque le toucher. Nous sommes alors saisis par la vérité du mystère que nous célébrons dans l'Eucharistie. Ou tout simplement, à l'improviste, dans nos activités quotidiennes, nous sentons clairement que Jésus est là, présent, à nos côtés. Le Seigneur manifeste sa gloire pour que nous croyions. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui de goûter à cette gloire.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Bon dimanche à tous.